BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, on va parler de sport, principalement avec les dernières campagnes de l'agence DDB Paris. Nous serons avec son président Jean-Luc Bravi. On s'intéressera à l'e-sport. Est-ce que les marques doivent investir ce terrain? Ce sera avec Eric Cavillon, directeur général casino du groupe Barrière, et Clément De Bruyne, le directeur éditorial de l'agence Oura. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Éric Trousset, directeur du développement du Média Courrier au groupe La Poste. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Vallogne, que l'on retrouve comme chaque semaine pour les news. Alors Marie, assez surprenant, l'Elysée cette semaine a choisi de déposer sa marque.
Et oui, on pourrait bientôt trouver des stylos ou des boules à neige siglés Élysée, présidence de la République. La marque a été déposée il y a quelques jours et un appel d'offres pour définir la stratégie commerciale de la présidence de la République a été lancé. L'idée en fait, c'est d'ouvrir d'ici septembre une boutique en ligne et pourquoi pas distribuer ses goodies dans des institutions culturelles ou des boutiques souvenirs. Et l'argent récolté servira à rénover le palais présidentiel.
Critiqué par le sélectionneur brésilien, eh bien Mastercard a décidé de modifier sa campagne de bienfaisance avec Neymar et Messi.
Et oui, en fait, Mastercard voulait lancer une campagne en partenariat avec le Programme alimentaire mondial de l'ONU. L'idée, c'était qu'à chaque fois qu'un but serait marqué par l'un des deux attaquants d'ici 2020, 10 000 repas seraient distribués aux plus pauvres. Seulement, le projet a été considéré de mauvais goût et contre-productif. Trop de pression sur les épaules des deux joueurs. Mastercard a donc fait marche arrière et remplacé sa campagne par le don d'un million de repas aux enfants d'Amérique latine et des Caraïbes en 2018, en plus des 400 000 déjà distribués depuis le mois d'avril, sans dépendre cette fois-ci donc du nombre de buts marqués par les joueurs.
Et puis une autre marque qui a fait marche arrière cette semaine, c'est Lufthansa.
La compagnie aérienne allemande a retiré une publicité qui vantait ses vols vers la Russie à l'occasion de la Coupe du Monde, pour la simple raison qu'une partie du clip n'a pas été tournée en Russie, mais en Ukraine. Or, le pays est en conflit avec les Russes, de quoi créer un incident diplomatique et attiser les critiques sur les réseaux sociaux. Lufthansa s'est excusé dans un communiqué et a expliqué avoir tourné en Ukraine uniquement pour des raisons logistiques.
Et puis la grande actu cette semaine, Frédéric, on peut le dire comme ça, la seule s'il fallait retenir qu'une, c'est que votre propriétaire, le propriétaire de CB News, Media School, rachète Stratégie.
Absolument, exactement. Bah oui, c'est la grande nouvelle. C'est le rapprochement en fait de deux cousins, CB News et Stratégie, ou dans l'ordre Stratégie et CB News, qui ont été créés tous les deux par Christian Blachat. Ouais. Donc nous voilà réunis tous ensemble, donc c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une autre, et je pense que ça va être grand et intéressant. Et
on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine.
Sans aucun doute.
Merci Marie, à la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Jean-Luc Bravi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de DDB Paris et vous avez orchestré la nouvelle campagne de marque de l'équipe avec un changement de signature en plus, je crois. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette campagne?
Bah, tout simplement, on a voulu d'abord travailler une campagne de marque parce que l'équipe communiquait dans le passé, on va dire, la chaîne, le quotidien, le site. On a voulu avoir un discours qui fédérait tout le monde.
Tous les enseignants.
Et vous le savez, le sport n'est plus marginal dans la société. Il fait partie, il est en prise avec la société. On a voulu jouer là-dessus et se tous unis par le sport représente tout ça, tous ces liens qui nous lient. Alors évidemment, on a fait ça avec irrévérence, avec esprit. Donc il y a des exemples qui sont drôles et du coup, c'est une campagne assez ovni qui a un énorme succès. Alors qu'au départ, elle est partie de manière très classique dans le métro, l'affichage, on va dire des médias qui parfois sont un peu considérés comme traditionnels. Et en fait, le ton et la forme qui est très sociale a été captée par le public. Et c'est un énorme succès. On était très contents, mais on pensait pas que ça allait autant nous échapper.
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça.
Oui. C'est ça. La campagne, elle est assez collaborative. C'est-à-dire, les gens ont envie de trouver les leurs. Ils se disent, moi j'aurais pu faire ça. En plus, on est en in situ aussi, par exemple dans le métro, quand vous sortez du métro, vous voyez le métro, des trous dans la terre, le golf, l'équipe, etc. On a joué avec plein de trucs, la bouffe par exemple, il y en a une qui dit les sushis de la semaine dernière, d'Angers, le sport automobile. Voilà.
D'accord.
Et l'équipe, bien sûr.
Voilà.
Donc toutes ces associations, les gens adorent, quoi. Ils s'y retrouvent. Et en fait, elle est plus large. Elle ne parle pas qu'à des fans ou à des dingues de sport. Elle touche des gens qui sont un peu loin de cette marque. Et voilà, donc on est très contents. Et évidemment, elle va vivre parce que vous imaginez...
Du coup, elle va continuer parce que quand on commence comme ça, on a envie que ça s'arrête pas.
Exactement. On l'a pas fait, mais voilà, le mariage du prince, on aurait pu faire une annonce. Enfin, tout est prétexte à partir de loin pour arriver à l'équipe. Avec des trucs, les repas interminables, discipline dans laquelle les Français excellent, le hand.
D'accord.
Si je peux me mettre à jouer avec vous, vous allez en trouver des drôles, des biens. Et en social, bien sûr, on demande aux gens de trouver les leurs, de nous les envoyer, et puis pourquoi pas les publier.
C'est collaboratif, en fait.
Ouais. C'est un esprit simple qui c'est de l'entertainment et les gens, ils veulent ça, d'une marque média. On se prend pas trop la tête vous avez vu aussi qu'elle marche de manière très simplifiée. Voilà, il y a la grosse arborescence.
Ah, la grosse, il faut prendre le temps de tout déchiffrer.
Voilà. Mais vous savez, évidemment, en social, on sait tout. Il y a des gens qui ont raté volontairement le métro parce qu'ils voulaient lire.
Parce qu'ils voulaient tout lire.
C'est hyper sympa, quoi, de voir ce résultat comme ça et de le quantifier. On avait des équipes qui ont été voir sur le terrain pour faire des captations, etc. Et ça faisait vraiment plaisir, quoi. Ouais, c'était un petit coup de petit soleil il y a 10 jours maintenant.
Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, puisqu'on parle de sport, vous lancez cette semaine une campagne pour la Golf électrique, partenaire de l'équipe de France de football. Alors évidemment, la Coupe du Monde, c'est une grosse opportunité de communication pour plein de marques. Comment est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu quand on sait qu'on va être en frontal avec plein de pubs?
Vous devez regarder qui vous êtes par rapport à l'événement. Et donc il y a des marques, évidemment, comme l'équipe, comme Bing Sport, qui elles sont liées à des retransmissions. Bing Sport, par exemple, vous le savez, ils vont retransmettre l'intégralité des matchs, 64 matchs, deux chaînes, 24 heures sur 24. Mm-hmm. C'est un boulot énorme, mais on va dire c'est normal, c'est leur boulot. Et après, vous avez des marques qui vont profiter de l'événement. Et là, il faut pas être racoleur, il faut faire des choses qui soient plutôt fins, en accord avec les valeurs de la marque dont on parle. Et Volkswagen est partenaire de la Fédération Française de Foot. Et en fait, un événement comme la Coupe du Monde, c'est un truc bruyant, de supporters, etc., etc. Et nous, on a profité de ça pour parler du silence de la Golf électrique. Et c'est un pied de nez aussi, quelque part. C'est pas loin de ce qu'on a fait pour l'équipe d'une certaine façon. De toute façon, ça c'est la marque de fabrique de l'agence. Et voilà, donc on profite de ça pour pas parler de tellement de foot que ça. Et on est très content du résultat. Et c'est assez surprenant parce qu'effectivement, là, on va faire du commerce puisqu'on va parler d'une Golf électrique. Un moment où peut-être ce serait plus facile de faire un film sur l'ambiance, les joueurs. J'étais d'ailleurs surpris, mais j'attends le film Nike. Mais pour l'instant, j'ai pas vu des trucs incroyables, quoi. J'ai vu des catalogues de stars faits par Adidas.
C'est resté assez calme pour le moment sur ce front-là. Ça vous permet de vous faire entendre bizarrement avec un film silencieux.
Il y a Beats de By Dre qui a fait un très beau 4 minutes réalisé par Guy Ritchie qui est vraiment un super film. Voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est eux qui ont pris la main, moi je trouve, sur la Coupe du Monde en Russie. C'est pas Nike ou Adidas. Nike a fait un truc pas mal pour le marché brésilien qui risque de débouler. Mais voilà, quoi, chacun va chercher à... Évidemment, si vous êtes une marque de bière, vous allez faire quelque chose par rapport à la convivialité, en faisant attention avec la loi E20. Mais voilà, c'est un événement où on sait qu'il va y avoir beaucoup d'audience. Les télés, vous le savez, sont clés. On a beau être dans un monde digital, la Coupe du Monde...
Ce que je voulais savoir, ça reste là, pour le coup, le terrain de la pub classique à l'ancienne, on a envie de dire, avec le 30 secondes télé, où on est aujourd'hui beaucoup sur le digital.
Ouais, je pense. C'est-à-dire qu'il va y avoir le gros storytelling, essayer de raconter quelque chose de fort sur la Coupe du Monde, en Russie. Pas l'oublier, qui est un peu plus difficile que la Coupe du Monde au Brésil, par exemple. Il faut trouver des choses à raconter. Mais derrière, on va infiltrer. Moi, je dirais que le bon mix, c'est souvent la télé et le digital, le social, parce que après, on va infiltrer les communautés, on va s'adresser à eux, on va leur parler, etc., etc. Donc, ça n'arrête pas. Mais le gros, le tronc central, ça reste la télé. Mmh. C'est beaucoup la télé. Voilà. Mais tous les médias vont en bénéficier, évidemment. Les radios vont être importantes.
Bien sûr.
Voilà. Et après, vous le savez, ça va être aussi lié à, au résultat de la France, ce qui nous concerne. S'ils sortent pas de la poule, ce que je n'envisage pas, mais
on sait jamais.
Voilà. Et après, évidemment, toutes ces phases, on va sentir au début, vous savez, c'est comme un cercle qui s'écarte. Au début, vous allez avoir des fans de foot un peu plus larges, mais s'ils commencent à gagner, vous avez même...
Et s'ils commencent à gagner, est-ce que vous avez déjà anticipé avec certains de vos clients
oui.
des dispositifs en vous disant, ok, si à part si justement ils sortent des phases de poule, ils vont donc, ok, donc on a déjà la phase 2 et puis la phase 3, 4
Enfin, c'est pas aussi clair que ça, parce que ce qui a changé, c'est que maintenant nos annonceurs, ils le savent, les agences, on a appris à travailler très vite. Donc avant, on anticipait, on prévoyait tout un mois à l'avance, parce que sinon on se disait comment on va faire. Maintenant, on est capable de faire des dans la brand content factory de l'agence, on est capable de faire un film en une journée.
En une journée.
Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, il y aura une équipe qui va partir, qui va tourner, qui va monter dans la nuit ensuite. Et le lendemain matin, pour un client, on peut avoir un contenu pour telle ou telle marque, en ayant des équipes, etc., rapides. Style, on va dire, journaliste un peu. Style, comme vous travaillez, comme vous travaillez l'été.
On a du souci à se faire, alors.
Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Luc Bravi. Je rappelle que vous êtes le président de DDB Paris.
BFM Business. Hebdo.com. L'édito.
Et cette semaine, on retrouve notre chroniqueur masqué, Joe Lapont, Frédéric.
Oui, Joe, avec qui on va parler de grandes idées, mais des grandes idées pas forcément très originales.
Et oui, et cette semaine, je vous ai trouvé un ratage monumental, un plagiat vraisemblablement involontaire, mais qui était assez impressionnant, qui s'est déroulé dans la région de La Rochelle, en Charente-Maritime, où deux entreprises de construction de maisons individuelles ont à moins d'un an d'écart, fait une campagne d'affichage avec le même visuel, avec la même idée visuelle. Et donc, ils ont mis une girafe qui allait trois dans un appartement pour vendre des maisons individuelles, pour donner envie aux gens de s'agrandir et d'acheter une maison. Et alors, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Parce que c'est vrai que c'est incroyable que dans le même secteur, dans
la
même région...
Moi, je croyais que c'était vraiment la même boîte, en fait. Mais non, pas du tout.
Et non, ils n'ont pas la même agence. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient la même problématique, c'est le même type de client. Ils avaient vraisemblablement pas les moyens de se payer une agence. Ils ont fait appel à des freelances, ils ont peut-être fait la pub en interne. Toujours est-il que les créatifs ont été chercher une image par manque de moyens aussi, sans doute, directement sur une banque d'images. Ils ont été sur la même banque d'images, manque de chance, ils ont tapé les mêmes mots-clés et ils ont utilisé la même image. Et au final, on se retrouve avec deux campagnes affichées dans la même ville qui créent dans l'esprit du consommateur vraiment une confusion, puisqu'ils ne savent plus vraiment à qui on a affaire.
Mais il y en a un qui a fini par retirer son affiche quand même.
Et donc le deuxième, celui qui est arrivé après, quand il a été mis au courant, et ben effectivement, il a affiché pour rien, il a été obligé d'annuler sa campagne et de tout arrêter. Ouais.
Bon, et puis on parle d'iceberg aussi cette semaine.
Oui, alors il y a une une de magazine cette fois-ci, c'est pas une publicité, mais alors c'est une une de National Geographic où ils ont mis une très belle image d'iceberg dont on se rend compte en deuxième lecture que c'est un sac plastique immergé. Donc un très beau visuel. En plus, ils en étaient très fiers, ils ont beaucoup communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Ils ont dit pour une fois, on a une idée un peu publicitaire en une de magazine. C'est pas juste une belle image. Et en fait, malheureusement, eh ben c'était tellement publicitaire que ça avait déjà été fait par une agence de pub en 2015 en Slovaquie, avec aussi une très belle photo, très identique, très proche. Et donc le photographe qui a fait cette annonce en 2015 s'est plaint sur son compte Instagram. Il a essayé de lever l'affaire et de dire c'est pas possible, j'avais eu cette idée, on avait fait ça déjà quelques années auparavant, quoi.
Bon, bah comme quoi, hein, les grandes idées,
voilà,
pas toujours très original.
C'est pas toujours très original.
Merci beaucoup, Joe Lapont.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et dans le Zoom du jour, on a choisi cette semaine de s'intéresser à l'e-sport avec Éric Cavillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général casino du groupe Barrière et Clément De Bruyne. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial de Oura, agence qui accompagne les marques qui veulent investir l'e-sport. Alors pourquoi fallait une agence spécialisée dans cette discipline? Il y a trop de codes, c'est trop compliqué pour les néophytes.
Dans un sens, oui, il y a vraiment beaucoup de codes parce que c'est un milieu qui est très codifié justement, avec une communauté qui est aussi assez difficile justement à toucher via les médias traditionnels, etc. Donc il faut toujours trouver de nouvelles manières de les toucher via les médias, mais aussi de nouvelles manières de s'adresser à eux, parce qu'il y a souvent un vocabulaire spécifique, etc. Donc faire attention à bien communiquer et bien s'exprimer envers cette communauté, parce que ça peut très vite se retourner contre vous.
Éric Cavillon, pourquoi est-ce que Barrière a choisi d'aller sur l'e-sport ?
Justement pour communiquer avec les millennials, comme on dit, les toucher. Ils n'ont pas obligatoirement la même culture que nous, ils regardent pas obligatoirement les mêmes publicités. Et en définitive, on s'est dit que plutôt que de faire une campagne de pub à destination des millennials, on a fait des compétitions d'e-sport et on est très contents.
Et en fait, l'idée, c'est de faire rentrer les amateurs d'e-sport dans vos casinos avec, j'imagine, l'envie, l'ambition qu'ils y restent et qu'ils découvrent d'autres formes de jeux. Et ça marche ?
Absolument. D'ailleurs, ça marche. Ouais. Effectivement, c'est pour ça qu'on va accélérer. On a remarqué une porosité en fait entre le gaming et ce qu'on appelle le gambling en anglais, c'est-à-dire les jeux de casino. D'ailleurs, quand vous prenez le métro, vous voyez des gens jouer à des jeux sur mobile. Ils ont exactement le même regard que les gens qui dans nos casinos jouent aux machines à sous. C'est incroyable.
Ouais. C'est vrai,
et ça, je l'ai remarqué tout de suite. Ouais. Et à partir de là, on a dit il faut absolument qu'on s'intéresse à l'e-sport, parce que notre problématique, c'est justement aussi de faire venir des jeunes entre 18 et 35 ans, on va dire, qui n'ont pas obligatoirement l'idée de venir au casino, qui ne sont pas du tout réfractaires à notre activité. Simplement, il faut juste leur faire passer la porte.
Plutôt masculin, hein, quand même.
Alors, non, sur le gaming... Alors, j'ai des chiffres là-dessus, c'est pas vrai. Okay. Sur le gaming, c'est 55-45.
Ça va.
Ouais.
Et donc, vous disiez plutôt... 18-35 ?
18-35 ans, mais de toute façon, il y a 55% des plus de 55 ans qui jouent à l'e-sport. Donc, de toute façon, c'est totalement maintenant une culture. On est rentré dans quelque chose qui devient effectivement une culture populaire. On a des shows, puisque nous, on a choisi le pari du divertissement, de l'entertainment, parce que c'est un de nos métiers. On fait plus de 3000 spectacles par an. Et l'entertainment via l'e-sport, je peux vous dire, ça décoiffe. C'est incroyable. On voit des images, je crois, qui sont en train de défiler. C'est un monde incroyable et il y a vraiment beaucoup de créativité, beaucoup de fun et ça colle parfaitement avec nos établissements.
Moi, je me demandais, Clément De Bruyne, si c'est réservé à certaines marques ou s'il y a des marques qui sont de toute façon trop vieilles ou avec lesquelles ça colle pas, ou est-ce que finalement toutes les marques peuvent aller sur l'e-sport ?
Non, je pense que toutes les marques peuvent aller sur l'e-sport et d'autant plus qu'elles le font déjà, que ce soit des marques de food comme Lyon notamment qui a investi le milieu de l'e-sport depuis l'année dernière, beaucoup de marques de retail, il y a eu des partenariats entre des équipes professionnelles, des équipes e-sport et des magasins comme Jack & Jones notamment. Il y a aussi beaucoup de banques qui commencent à s'y intéresser. Il me semble que la Société Générale commence à s'approcher doucement du milieu. Il y a aussi Randstad qui a fait une campagne de publicité. Donc c'est vraiment fermé à personne et je pense que l'e-sport aussi a cette granularité-là, qui permet à n'importe quelle marque de pouvoir investir le milieu. Ça bouge, ça change toujours, il y a toujours des nouveaux jeux qui sortent, etc. Donc c'est très complet, ça bouge beaucoup, donc non, aucune marque est fermée pour le milieu. Le seul regret qu'on pourrait avoir pour l'instant, ce serait de pas avoir par exemple de marques de produits d'hygiène féminin qui investissent le milieu pour le moment. On trouve ça dommage parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de belles choses à faire et de beaux messages à porter dans le milieu de l'e-sport.
Et surtout que le potentiel de croissance est énorme, parce que j'ai vu que le revenu généré par l'e-sport en France, c'est 28 millions de dollars. Autant dire que c'est pas grand-chose là pour l'instant.
C'est pas grand-chose, mais ça augmente tellement rapidement au final. Ouais. Il y a eu des levées de fonds exceptionnelles par certaines équipes. Je pense notamment à la Team Vitality, la plus grosse structure française. La plus grosse structure française e-sport. Donc c'est gentiment aussi en train de se développer et avec l'attrait des marques pour le milieu, ça peut que continuer dans ce sens-là aussi.
Il y a un peu de paradoxe dans l'e-sport parce qu'à la fois ça monte très vite. Donc c'est de plus en plus populaire et à la fois vous le disiez au début, ça reste un monde assez codifié. Donc pas forcément accessible à tout le monde quoi. Comment est-ce que dans ce milieu-là, comment sortir de la contradiction, être à la fois populaire et à la fois répondre aux demandes quand même assez spécifiques de ce public?
Alors, on a évidemment pensé à cela, puisque on a en fait le même problème dans les casinos. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est qu'un casino, mais beaucoup de gens ont du mal à s'asseoir à une table parce qu'ils ne savent pas jouer au blackjack, alors que c'est un jeu extrêmement facile, mais simplement ils ont cette petite appréhension pour venir dans un casino. Donc le groupe, depuis très longtemps, s'est tourné vers l'entertainment, justement pour, j'allais dire, démystifier un petit peu les lieux. Donc on a des concerts de vraiment qui vont d'un bout à l'autre de la chaîne culturelle. Ça peut être de la musique classique très pointue, comme des artistes comme Christophe Willem ou d'autres. On a d'ailleurs le Barrière Jazz Festival qui va se passer juste derrière notre prochain événement e-sport. Et donc, quand on parle d'e-sport avec l'entertainment, ça intéresse tout le monde, puisqu'il y a de la musique, il y a du fun, les choses sont expliquées par des influenceurs qui sont sur scène et qui vont en fait expliquer le jeu au public. Donc, même si vous ne connaissez rien à l'e-sport, je vous invite à venir au Barrière e-sport Tour d'Anguin.
D'accord.
Mais ça doit coûter quand même assez cher à organiser, j'imagine, quand on voit les moyens que vous engagez. Enfin, moi, j'ai vu les images, visiblement, ça a l'air assez grand. Vous faites venir des youtubeurs, en plus, vous le disiez. Vous arrivez quand même à rentabiliser tout ça ?
Alors, la rentabilité, elle est stratégique, avant tout. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle le top of mind de gens qui ont entre 18 et 35 ans, qui ne pensaient pas obligatoirement venir dans un casino pour s'amuser, pour jouer, ne connaissaient pas obligatoirement les casinos. On a des réactions incroyables. En trois événements, puisque c'est le quatrième qui va se passer à Anguin, on est passé en fait d'un taux de retour sur l'établissement dans la salle des jeux, c'est-à-dire la salle qui est soumise à contrôle d'identité. Oui. Donc là, vraiment, vous faites un effort pour passer ce passage. On est passé d'à peu près 25% de retour à 90%. Donc on y arrive.
Ah, c'est énorme.
Les gens viennent. Après, pour nous, c'est aussi un pari sur l'avenir, bien évidemment. Ça permet aussi de donner une image du groupe Barrière tel qu'il est, c'est-à-dire un groupe dynamique qui s'adresse à tous les âges, à toutes les tranches de la population. Et puis, c'est des événements extrêmement festifs, vraiment.
Merci beaucoup, Éric Cavillon. Je rappelle que vous êtes le directeur général casino du groupe Barrière et Clément Debrune, directeur éditorial de Oura.
BFM Business, Hebdo.com, Solutions Mailing.
Avec Éric Trousset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du développement du média courrier à La Poste. Alors comment se porte le média courrier à l'heure du digital ? Comment est-ce que les marques aujourd'hui vous voient ?
En fait, le courrier a une capacité de résilience, je dirais, insoupçonnée, notamment par les acteurs du digital. C'est bien l'enjeu que le groupe La Poste s'est donné, c'est de pouvoir montrer les usages qui perdurent, les usages qui par certains côtés progresse, et que en fait les Français n'opposent pas les canaux, le canal papier, le courrier arrive à parfaitement cohabiter avec le digital.
On arrive aujourd'hui à faire de l'innovation dans le média courrier.
Oui, notamment au travers de la réalité augmentée, puisque qui s'insinue un peu dans tous les médias, mais c'est qu'au travers d'un courrier papier, on peut créer une expérience qui se prolonge dans le digital, et ça peut être très spectaculaire.
Alors, quel est l'intérêt pour les marques comme ça de faire du mailing traditionnel ? Ça crée quoi ? Un lien plus proche ?
La vocation du courrier, c'est effectivement de travailler en profondeur la relation client. Le fait d'écrire, c'est vraiment perçu, et ça on l'a mesuré de longue date, comme étant une marque d'attention auprès du consommateur. Et certaines marques très emblématiques du courrier, je pense par exemple à Nespresso, entre autres, mais
qui est venu ici nous expliquer ça.
Montre bien que c'est vraiment un canal relationnel majeur et qui peut être tout à fait complémentaire avec d'autres outils.
Et surtout qui reste performant. Vous avez des chiffres là-dessus, hein, l'étude de Balmétrie. Quel est l'impact par exemple sur le consommateur ?
Alors effectivement, Balmétrie, c'est une étude qui a déjà quelques années, qui est là pour montrer que les usages du courrier, donc d'un point de vue consommateur, restent particulièrement élevés. Deux chiffres juste pour illustrer. 83% des Français continuent à ouvrir leur boîte aux lettres tous les jours, boîte aux lettres physique. Donc ça montre bien la relation au canal. Et puis l'autre point, on a 93% des Français qui auront lu au moins un courrier par semaine, ce qui montre quand même l'attachement à la lecture.
Et on a des chiffres sur ensuite la transformation vers des sites d'achat, vers des magasins ?
Oui, alors les résultats sont différents selon les canaux du courrier utilisés. Je vais prendre deux exemples. Si on prend l'imprimé sans adresse, que certains appellent le prospectus, il est très générateur de trafic en magasin. 46% des Français nous déclarent s'être rendus ou avoir l'intention de se rendre en magasin juste après avoir reçu un document. Sur le courrier adressé, parce qu'il est personnalisé, parce qu'il donne un peu plus de temps à la lecture, on va en fait avoir des résultats qui vont se partager entre l'effet drive to store Et puis l'effet drive to web, ce que je trouve intéressant, et on a des scores quasiment identiques, c'est 23% sur l'effet drive to store, 22% des Français qui nous disent « je me suis rendu sur le site internet où j'ai l'intention d'y aller pour prolonger l'expérience », et on voit bien l'interaction aujourd'hui dans les usages entre le papier et le digital.
Donc ça veut dire que tout ça peut rester complémentaire ?
Mais j'en ai absolument la conviction, oui.
Merci beaucoup, Éric Trousset. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement du Média Courrier du groupe La Poste. Et merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.